C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Ventus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autre chose.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 12 juin et il est 8h33, une petite imprimante capricieuse ce matin, ça arrive, mais vous êtes bien en direct sur Radio Bartas et ça fait du bien au programme de cette matinale. Nous sommes en direct avec Stéphanie, bonjour.
Salut.
Théo, bonjour.
Bonjour.
Et Louise, bonjour.
Bonjour.
Tous les deux, vous faites partie de la compagnie Cortège de Tête. Et toi, Stéphanie, de l'association L'Atelier.
Toujours.
Le grand soir, on l'attend pas, on le prépare, un événement plus qu'engagé, un week-end citoyen. Ça se passe ce week-end ici à Florac. On en parle avec vous dans un instant. Et puis, en deuxième partie d'émission, ce sera la troisième interview de producteurs de sens. Les producteurs vendant leurs produits cet été sur le marché nocturne de Saint-Enimi. Et cette fois-ci, ce sera Marion Deltour. Son exploitation se nomme Les Fruits Rouges de la Coste, ça se situe à Saint-Germain-de-Calbert. Et c'est Léo qui a rencontré notre service civique, on l'écoutera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab et on enchaîne tout de suite avec le grand soir, on attend pas, on le prépare, exceptionnellement pas d'édito ce matin. Théo, Louise, j'avais écrit François qu'on embrasse, qui ne peut pas être là ce matin. Et Stéphanie, merci à tous les trois d'être avec nous. Le grand soir, on l'attend pas, on le prépare, ça se passe ce week-end. Et l'Orga, c'est Stéphanie L'Atelier qui porte ce week-end. Et puis pour la compagnie Cortège de Tête et le spectacle Le Grand Soir n'aura pas lieu, point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation. Hein.
Ouais, c'est ça.
Alors comment on le dit?
Le Grand Soir n'aura pas lieu.
Ah ouais, ça, ça, ça marche
bien. Question,
Théo, t'étais venu nous en parler il y a 4 ans déjà maintenant.
Ouf. Ouais, c'était peut-être ça, ouais.
Ouais, c'était...
Ça fait 4 ans que je suis Flora, quoi.
Ouais. Au siècle dernier. Alors, c'est vous qui ouvrez le bal, hein, Louise et Théo, avec la soirée de vendredi. Bah, commençons par le début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la compagnie Cortège de Tête?
Eh ben, Cortège de Tête, du coup, c'est une compagnie de théâtre de rue professionnelle qui est une compagnie qui agit, on va dire, sur deux territoires, plutôt la Nouvelle-Aquitaine autour de Poitiers et plutôt, du coup, en Occitanie, autour de la Lozère et de Florac-Trois-Rivières. Et donc, on est un collectif qui travaille plutôt autour de questions de société qui nous intriguent, intéressent, qui nous indignent aussi. Ouais. Et on essaye, à partir de ça, d'écrire des histoires, des fictions, ou d'adapter des romans, des choses comme ça. Et là, notre dernière création, Le Grand Soir, n'aura pas lieu pendant la création. Et plutôt une pièce qu'on a écrite à partir de témoignages. Et donc voilà, on est dans cette démarche-là de faire des enquêtes un peu sur tout ça et d'en faire des récits.
Comment ça s'est passé justement ces 4 dernières années pour vous? Ça n'a pas dû être la panacée, hein, comme beaucoup de compagnies finalement.
Ouais. Ça n'a pas été facile tous les jours. Bon, il y a eu les théâtres fermés et ensuite, nous on les a occupés. Voilà. Et puis ensuite, il y a être une jeune compagnie post-Covid. Ouais, c'est pas facile du tout. Mais en fait, tu vois, on a un spectacle militant très engagé qui parle de la question écologique. Et là, toute la tournée qu'on bâtit, on l'a bâtie aussi avec des militants et des militantes, ce qui nous permet aussi un rebond par rapport aux difficultés d'insertion dans les institutions culturelles.
On va y revenir à votre spectacle, hein, bien sûr. D'abord, Stéphanie, d'où est-ce qu'elle est venue l'idée de monter ce week-end citoyen? Alors, disons-le, il y aura des formations bien engagées sur la désobéissance civile non violente et sur les stratégies de lutte. On en parle juste après. Mais c'est quoi la jeunesse du projet?
Mais en fait, l'atelier porte en tant qu'asso pour dire, pour louer des salles, organiser un peu en amont. Mais on n'est pas tout seul, en fait. C'est un collectif de personnes qui se sont retrouvées pour suite à tout ce qui se passe là depuis 2 mois et demi autour autour des retraites, autour voilà, de politiquement tout ce qui indigne les gens. On s'est dit que c'était quand même bien, après avoir milité pendant 2 mois et demi avec plein de gens différents, de continuer à construire le groupe et la pensée politique en organisant des formations qui permettaient à tout le monde, selon tous les niveaux de radicalité et les envies d'action directe ou plus dans le temps, de se retrouver et de pas faire exploser ce truc-là qui se passe et que moi je trouve assez incroyable là dans l'époque qu'on vit.
C'est sûr. Alors la question peut paraître bête, mais c'est quoi le grand soir? Est-ce que c'est comme en 80 avec l'élection de Mitterrand?
Non, pas trop. À l'époque, on pensait que Mitterrand était de gauche, finalement.
Oui, oui, je parle du premier soir. Après, ça s'est gâté, évidemment. Mais, c'est quoi le grand soir?
Vas-y Théo, fais-toi plaisir.
Le grand soir, c'est un concept qui est né à la fin du 19e siècle dans les milieux révolutionnaires et syndicaux. Voilà, c'était la naissance du syndicalisme, fin du 19e, début 20e. Et c'est un concept qui est né chez les exploités qui ont en fait forgé cette idée que un jour, ils allaient réussir à se défaire des systèmes de domination dans lesquels ils se retrouvent piégés. Et que c'est finalement une idée qui permet d'avancer. C'est une sorte d'espoir, une espèce de boussole. C'est beaucoup de choses à représenter tout ça pendant presque un siècle pour tout le mouvement d'émancipation. Et aujourd'hui, c'est un concept qui est complètement tombé en ringarditude.
En désuétude. Ouais.
En désuétude, voilà. Mais il faut le dire aussi parce que l'offensive réactionnaire en face a utilisé ce mot-là pour tout et n'importe quoi. Et surtout, on a cette phrase, ce lieu commun qui est apparu, mais par le camp d'en face, hein. C'est ceux qui attendent le grand soir. On dit souvent attendre le grand soir, on dit attendre le grand soir, etc. Alors que dans le concept lui-même, tel qu'il avait été pensé par le mouvement d'émancipation à la fin du 19e siècle, le grand soir, on l'attendait pas, on le prépare, quoi.
Ouais.
Voilà, c'était ceux et celles qui luttaient au quotidien, qui réfléchissaient concrètement au fait que à comment ça serait après, quoi, et comment ça serait après la révolution, et du coup et même comment ça serait la révolution permanente. Mais mais voilà, c'est ça a été complètement renversé. Aujourd'hui, le grand soir, c'est même plutôt quelque chose de négatif pour plein de gens, en fait. Voilà, il y a l'expérience François Mitterrand, mais il y en a d'autres. Voilà.
Et négative à cause de la récupération de l'extrême droite, disons-le.
Ouais, exactement. Mmh. Et puis de la méconnaissance de cette idée. Mmh. Mais nous, on pense, enfin, tout de suite, assez vite, quand on a commencé à créer le spectacle, parce que le spectacle s'appelle Le Grand Soir n'aura pas lieu, et finalement, en fait, ça a donné, c'est une réplique du spectacle qui a donné l'envie de nommer le week-end Le Grand Soir, l'attend pas, le prépare. Mais en fait, ce grand soir, en fait, qui est une sorte de récupération, mais c'est aussi quelque chose qui nous manque au quotidien. C'est-à-dire, ou en tout cas, un énorme questionnement, quoi. Puisque avec le réchauffement climatique et tout ce qu'on sait, qui va mal écologiquement, et ben, on est dans une perspective d'espoir un peu bouchée. Et en fait, reposer cette question-là, c'est reposer aussi la question, à la fin du 19e siècle, d'ouvriers et d'ouvrières qui travaillent 12 heures par jour dans des conditions minables et qui pourtant gardent la flamme de l'espoir. Et du coup, ça pose la question de est-ce que cette période que nous vivons est si particulière et finalement si désenchantée que ça, ou est-ce que, en fait... il y a des raisons d'espérer.
Et voilà, avec 3 petits points de suspension, y a-t-il des raisons d'espérer? C'est une excellente question. Alors justement, votre spectacle, ce sera devant le tribunal vendredi soir. À quoi va s'attendre le public? Parce que si j'ai bien compris, j'ai hâte de le voir ce spectacle, c'est vrai. Si j'ai bien compris, c'est un spectacle déambulatoire.
Oui, en effet, on invite le public à faire un peu une forme de balade, finalement, dans une histoire qu'on leur propose. Et donc là, ça va être à Florac, mais évidemment, on joue dans des villes différentes et à chaque fois, c'est différent. Mais on part d'un point de départ qui sera devant le tribunal et on va se balader de scène en scène pour suivre l'histoire du personnage de Lila. Mmh.
quel joli prénom. voilà. Justement, est-ce que le spectacle est ancré dans l'actualité par rapport au est-ce que vous l'avez évolué par rapport à ces dernières semaines là avec tout ce qui s'est passé, ou alors est-ce que finalement la trame que vous avez décidée elle s'inscrit dans une continuité depuis 3-4 ans?
On a décidé de vraiment situer historiquement l'histoire du spectacle. Mmh. Et ça démarre début 2019, parce qu'en fait ça correspond à peu près à l'époque où on a voulu commencer à l'écriture de spectacle, donc c'était contemporain avec le début de la création. Les événements du spectacle se situent dans des événements historiques qui ont eu lieu en 2019. Donc les Fridays for Future, c'était les lycéens qui bloquaient leur lycée pour le climat, les marches pour le climat, les gilets jaunes, tous ces mouvements sociaux qui ont eu lieu à cette époque-là. Et donc du coup, de fait, on ne peut pas le transposer parce que c'était ce qui se passait à ce moment-là et les enjeux qui se sont soulevés à ce moment-là. Néanmoins, cette pièce fait écho, notamment un passage de la pièce qui fait écho en fait à des luttes encore plus anciennes des années 70, résonne énormément avec ce qui a pu se passer par exemple à Sainte-Soline il y a 2 mois. Donc finalement, même si c'est historiquement situé, ça résonne quand même avec d'autres actualités, et c'est là où on se rend compte que finalement c'est important de se transmettre les histoires de lutte, puisqu'il y a beaucoup de liens entre des histoires précédente et celle qui nous arrive aujourd'hui.
Mmh. Vendredi, ça commence au Parc Maury avant d'aller au...
Parc Arnal. Ouais.
J'avais écrit Parc Maury, voilà, mais c'est très bien. Parc Arnal avant de justement aller descendre vers l'ancien tribunal, c'est ça, hein.
Ouais.
Donc Parc Arnal.
Ouais, il y aura Grignotte, Buvette et puis la chorale de Quézac qui viendra chanter des chants militants et accompagner les gens jusqu'au lieu du début du spectacle.
Mmh. Et donc le spectacle, et puis après retour au Parc Arnal. Ouais. Pour un
soirée festive, blind test pop politique, buvette, enfin voilà, et boum.
Et il y a de quoi faire. Alors, samedi et dimanche, il y a 2 jours de formation, ouais. On va y en parler, donc, sauf que j'ai vu qu'il fallait s'inscrire avant le 5 juin. Alors,
Il reste des places pour le samedi, si jamais il y a des retardataires. Le dimanche, c'est blindé, mais le samedi, il y a encore de la place. Donc, vous pouvez y aller.
Parlons-en. Donc, si samedi, vous voulez y aller, auditeurs et auditrices, commençons par le début. Vous avez trouvé des partenaires, ce qui fait que les prix des formations est d'à peine 15 euros minimum, et le prix du spectacle est à prix libre et conscient. Comment ça s'est passé et qui sont ces partenaires?
C'est des assos locales en fait. On est allé un peu prospecter, on a écrit un texte collectivement pour essayer d'expliquer ce qu'on avait envie de faire autour de ce spectacle-là, et ça a super bien pris en fait. Donc il y a, Nature et Progrès, les Vents de la Récolte, la Maison Commune, Attaque, la Conf, qui ont décidé de jouer le jeu. Il y a le Foyer Rural de Saint-Martin-d'Ansuscle aussi. Peut-être j'en oublie, je suis pas sûre, je vérifie. Non, j'en oublie pas. Et ils ont super bien joué le jeu, et ils ont financé à hauteur de ce qu'ils pouvaient mettre, ce qui fait que on peut payer le spectacle à prix, c'est un prix plancher qui rémunère seulement le travail des comédiens, des techniciens, de tous les gens qui gravitent autour du spectacle. Ils sont 7, c'est ça? Ouais. Et puis sur les formations, ça finance aussi le travail des formateurs et formatrices. Voilà, ce qu'on s'est dit, c'est que ça permettait aux gens effectivement de pas d'avoir un prix plancher accessible à tout le monde, en se disant toujours que s'il y a des soucis d'argent, bien sûr qu'on nous en parle et on voit comment on fait. Et l'idée, c'est que le prix libre et tout ça, où les gens qui ont envie de donner un peu plus sur la formation, ça permette de rémunérer un peu plus correctement la compagnie. Parce qu'il y a plein de frais autour qui sont hors salaire, et que c'est normal. Quand on est militant, moi, je trouve que c'est normal de payer le travail des gens.
Évidemment, ils ont besoin de manger, ces petits comédiens, comédiennes, quand même. Sachons aussi, disons-le, que le prix ne doit pas être un frein. C'est-à-dire que quelqu'un qui a moins de moyens, forcément, ils ont parlé avec vous et il n'y a pas de tabou là-dessus. En tout cas, les objectifs de ces formations, c'est justement de préparer le grand soir, d'avoir des clés pour organiser des actions, tout un programme, sachant que les combats sont nombreux et que les moyens d'action sont tout autant nombreux. Est-ce que c'est aussi, quelque part, un moyen de trouver des alternatives à la manifestation dont on voit... qu'elle s'avère parfois bien infructueuse.
C'est complémentaire en fait. L'expérience qu'on a eue depuis 2 mois là, en occupant des ronds-points, en allant manifester, en allant faire des trucs, inventant des choses comme on pouvait, c'est qu'en fait il y a de la place pour tout et que tout est complémentaire et qu'on peut oui faire des tours de ville avec l'intersyndicale, mais qu'effectivement on peut aussi faire d'autres choses qui vont venir faire un peu déborder et permettre peut-être que les choses elles avancent. Donc on s'est dit allons-y quoi, inventons d'autres choses. Et ça veut pas dire que on n'est pas divisé en fait. L'idée c'est de continuer à faire grossir tout ce truc là en essayant d'inclure le plus de gens possible en fait, parce que c'est que comme ça qu'on va réussir à faire la révolution.
Oui, alors allons-y. Il y aura une partie qui sera animée par Xavier Renoux du collectif Les Désobéissants, désobéissance civile non violence. Et la question est assez simple, c'est quoi la désobéissance civile?
C'est pouvoir désobéir à des injonctions, des lois, de l'État, des principes. Je sais pas, dans des actions de désobéissance civile, il y avait les faucheurs volontaires par exemple à l'époque qui fauchaient les champs d'OGM. Il y a tous les militants du Larzac à l'époque de la lutte qui ont inventé plein de moyens de se bagarrer avec l'armée et l'État sans prendre les armes en fait. La désobéissance civile non violente, c'est pas on est pacifiste et on se laisse taper dessus, c'est on invente des moyens qui vont permettre de faire monter
monter la sauce en tout cas pour sensibiliser aussi un public qui n'est pas forcément au courant de certaines choses qui se passent. Je pense à la ZAD de Sainte-Soline. Est-ce que c'est une ZAD maintenant?
Je crois pas que ce soit une ZAD.
Non, c'est pas encore une ZAD. Avec un peu de chance, ça va le devenir. Mais en tout cas, les ZAD ou Sainte-Soline, etc., tout ça, ça permet de sensibiliser le grand public.
Oui, puis d'inventer des moyens d'action et de lutte qui soient hors manifestations et mouvements très très pyramidaux et des choses qu'on peut faire en créant ensemble. Pour moi, c'est aussi de l'éducation populaire dans le sens où on invente ensemble et on s'éduque les uns les autres avec chacun nos apports.
Qui est Xavier Renoux?
Alors, c'est un monsieur qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Les Désobéissants, qui existe depuis hyper longtemps, qui faisait déjà des formations il y a 20 ans. Apparemment, il était déjà venu ici il y a 20 ans. Et il propose deux journées de formation, c'est deux fois la même, une fois le samedi, une fois le dimanche, sur comment on monte une action de désobéissance civile. C'est très concret, visiblement. Et puis surtout comment ça se déroule après dans l'action, comment on prépare, comment on fait l'action et comment ça se passe si les forces de l'ordre chargent et nous emmènent en garde à vue et comment on se défend collectivement.
La formation va être très complète, ça part de l'idée de l'action, son déroulé, ce qu'il faut mettre en place en termes de com, de sécurité, et ça va aller jusqu'à la garde à vue, comment il faut se comporter, qui il faut contacter. Moi ça fait vraiment écho à plein de choses, et aujourd'hui de toute manière même des gens qui sont non violents, etc., se retrouvent en garde à vue.
Bien sûr.
Donc il faut être bien préparé. Certaines parlent de violence légitime. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Est-ce qu'il y a de quoi en décourager plus d'une, justement, de se démobiliser à cause, justement, de cette fameuse violence légitime qui n'a rien de légitime, d'ailleurs?
Quand tu parles de violence légitime, tu parles de la violence légitime du pouvoir?
Des policiers, en tout cas.
Ouais. C'est pas simple, en fait. Tu vois, on n'a pas tous le même degré de... moi, par exemple, j'aurais du mal à me dire que je vais aller me bagarrer avec des flics, quoi. Mais après, je peux faire d'autres trucs. Et puis on a tous nos parcours, on a tous nos âges, l'idée c'est qu'on puisse chacun se retrouver dans un mouvement plus global où on se tire pas dans les pattes et chacun trouve la place. Mais c'est pas facile, oui, effectivement, ça se radicalise vachement. C'est eux qui sont radicalisés, c'est pas nous, hein.
Ça, c'est sûr. Alors le deuxième temps de ce week-end sera consacré aux objectifs et aux stratégies de lutte. Un programme. C'est animé par Adeline de Lépinay, qui est spécialiste, si on peut dire comme ça, de l'éducation populaire. Qui est-elle?
Théo, peut-être, toi, tu as eu plus de...
Moi, je la connais bien parce qu'elle était déjà venue au Théâtre Occupé de Mende. On l'avait fait venir pour présenter son livre « Organisons-nous ». C'est une militante qui a été salariée notamment d'Attaque France. Pour la petite anecdote et puis pour replacer un peu les choses, et qui donne des formations aux stratégies de lutte. Donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup penché sur l'organizing, qui est une forme de militantisme aux États-Unis. La forme de militantisme, c'est un peu, on pourrait même paraphraser en disant que c'est le syndicalisme états-unien. C'est une manière complètement différente de s'organiser par rapport à ce qu'on nous on vit en France autour d'un syndicalisme qui fait une inter-orga, enfin une intersyndicale, puis ensuite qui décide d'une manifestation ou d'une journée de grève, etc. Là, les choses se pense complètement différemment. Et du coup, l'idée là de cette formation, c'est vraiment de se poser des questions ensemble. Alors, tu parlais de la, tu nous demandais si c'était pour faire autre chose que des manifs, et Stéphanie te répondait que c'était complémentaire. Et je pense que j'ajouterais même avec cette formation que la question, c'est de soulever quand on fait quoi et pourquoi. Voilà, si tout est complémentaire, ben si une manifestation ou je sais qu'on a fait un barbecue après la dernière manif, voilà, on a essayé de le faire devant chez Pierre Morel à l'huissier, on n'a pas pu
un grand moment
mais si une manifestation ou un barbecue est l'occasion en fait de réunir des gens qui sont contre la réforme des retraites pour que ensemble on se rencontre, on parle et on prépare les prochaines actions, ben en fait on se rend compte que la manifestation n'est pas tout à fait ce qu'on pense souvent que ça peut être, c'est-à-dire le moment où on impose un rapport de force. Mmh. Et du coup, ben là, c'est vraiment essayer de décortiquer comment on structure une lutte de telle sorte qu'on sache que où on est à chaque fois. Est-ce qu'on est en train d'organiser un rapport de force avec le pouvoir ou avec la multinationale qu'on conteste, ou etc., dont on conteste les agissements, etc. Est-ce qu'on est en train de faire ça? Est-ce qu'on est en train de se renforcer? Ce week-end, nous, on va faire la fête vendredi soir après le spectacle. Et ben, c'est aussi un moment de la lutte. C'est le moment où on fait la fête ensemble. Mmh. Et ça peut exister, mais c'est juste qu'il faut se poser les bonnes questions de à quel endroit c'est et pourquoi on le fait. Et une fois qu'on a fait ça, on est grandi, quoi. Bah ouais. Et donc c'est un peu à ça que va servir la formation d'Adeline, c'est un peu poser ces questions-là pour essayer de s'outiller collectivement avec un collectif qui, comme disait Stéphanie, est composé de gens qui sont engagés dans cette lutte ou dans la précédente, mais qui n'ont pas forcément toujours une histoire très longue d'engagement. Et puis pour ceux et celles qui ont une histoire très longue, qui ont parfois des mécanismes un peu toujours les mêmes, quoi, mm-hmm. qu'on répète machinalement sans se poser la question de à quoi ça sert et pourquoi on le fait.
Est-ce que l'idée, c'est aussi de cette formation d'ailleurs, c'est aussi de remotiver peut-être des gens qui n'y croient plus et de se dire, bon, y a des moyens de se battre
Ouais, c'est on lâche rien. C'est en fait, ils disent que c'est fini, que les gens ils se battent plus, mais c'est pas vrai. Ça continue parce qu'on continue à réfléchir, on continue à agir, on continue à construire collectivement. Et t'as raison, c'est pas rien tous ces moments. Parce que, en fait, là, quand on était sur les ronds-points de Florac, là, c'était que dalle par rapport à ce qui se passait en France. Mais quand même, ça construisait du lien entre les gens, et faire la fête ensemble, c'est pas rien non plus, ça construit des choses, on occupe l'espace, on occupe le terrain, et moi je pense que c'est que comme ça qu'on va réussir à avancer, en fait, en étant présent, en continuant à créer de la vie, de la joie, de la lutte, du sens, du savoir politique, tous ensemble, et c'est que comme ça que ça va marcher, quoi.
Mmh. Théo, on sait que tu es engagé citoyennement et politiquement, puisqu'on peut dire que tu as accompagné la campagne de Sandrine Descaves, donc NUPS, filière France Insoumise. Est-ce que la politique a encore sa place aujourd'hui dans les luttes Est-ce que tu te dis pas des fois je suis complètement désabusé?
Alors, je permets de rebondir, Ben,
pour avec plaisir.
Toute petite spécificité. Juste avant la NUPES, il y avait été créé l'Union Populaire. Alors, moi, j'ai rejoint l'Union Populaire. Et je tiens à le dire, pas à la France Insoumise, même si j'ai beaucoup de sympathie pour plein de militants de là-bas. Moi, j'ai rejoint l'Union Populaire, qui était un projet quand même d'ouverture très important, qui s'est un peu refermé depuis avec la NUPES. Mais c'est un projet d'inclusion de citoyens et de citoyennes en lutte et autres, qui était assez magnifique, surtout qu'en Lozère, il y avait un parlement de l'Union Populaire qui était composé de celles et ceux qu'on a vu dans les luttes ces 5 dernières années. Mmh. Et donc c'était un moment d'ouverture extraordinaire pour des organisations politiques qui ont des fonctionnements et des mécanismes au quotidien qui sont un peu toujours les mêmes, et voilà. Donc voilà.
Pour rebondir à ça, sur la politique aujourd'hui.
Sur la politique aujourd'hui, moi, si tu veux, je pense que c'est complètement verrouillé, et je pense que c'est complètement verrouillé, pardon, au Parlement notamment. En fait, je trouve que on base toute notre stratégie de lutte là sur le fait de faire bouger l'Assemblée nationale. Et moi, je constate malheureusement que en fait la marge de manœuvre, elle est très très petite, parce que la 5ème République construit pour nous laisser très très peu d'espace. Et donc en fait, on est vraiment bloqué. Enfin, là, à chaque fois qu'il y avait une journée de mobilisation, c'était par rapport à un temps politique de l'Assemblée nationale. Or, en fait, à l'Assemblée nationale, en fait, on voit que la Macronie bloque tout et ils utiliseront tout pour qu'il n'y ait pas de vote et surtout pas qu'on voit qu'ils sont minoritaires et qu'ils sont en train de perdre et qu'ils ont déjà perdu. Mais voilà, tant que les institutions sont avec eux et qu'ils arrivent à l'utiliser comme ça, voilà.
Et ils ont déjà perdu en ouvrant grand la porte à l'extrême droite qui n'a jamais été aussi forte aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il ne faut rien lâcher, Stéphanie.
Bah oui, il ne faut rien lâcher. Après, l'extrême droite, oui, c'est clair que Macron, il réalise le rêve de l'extrême droite. Hein. Enfin,
alors qu'il avait dit, il y a 7-8 ans, on n'entendra plus parler de l'extrême droite quand je serai au pouvoir. Bon, bah, mission perdue, hein, il a tout raté. Louise, c'est pareil, d'où vient ton engagement? Est-ce qu'il y a eu un déclic un jour qui t'a fait dire, là maintenant on y va, je m'engage artistiquement et citoyennement d'ailleurs?
Moi, je viens d'une famille communiste, donc j'ai toujours baigné un peu dans le milieu militant. J'ai vu la fête de l'UMA depuis que je suis petite. Les 1er mai, c'était toujours la grande fête avec tous les copains, les camarades, tout ça. Donc ça fait partie de ma culture, on va dire, familiale. Après, moi, mon engagement, il a un tout petit peu vrillé par rapport à ça. Et je pense que ce qui l'a déclenché, c'est qu'un jour, des copains m'ont emmené à Notre-Dame-des-Landes. Et j'ai pris la réalité du réchauffement climatique et des luttes aussi un peu différentes de comment s'organise le Parti communiste, quoi, avec tout ce qui est un peu lutte plus autonome et tout ça, à ce moment-là. Et puis c'est surtout là où j'ai confronté la violence de la police. Et donc tout ça mélangé, je pense que ça a été un bon déclic pour enclencher un peu un cheminement de réflexion. Et du coup, voilà, et moi, aujourd'hui, je milite plutôt à Extinction Rébellion, à Poitiers, qui est un mouvement que je trouve très chouette, justement, dans toute cette démarche de passer du, entre guillemets, de la manif à l'action de désarmement de bassines. Enfin, voilà, il y a tout un temps entre ces deux stades-là de la lutte, et je trouve que c'est un mouvement qui permet de faire cette transition-là, que j'aime bien, du coup. Donc moi, c'est un peu comme ça, ouais, que je répondrai à cette question.
Ce serait d'ailleurs super qu'on parle un peu plus d'Extinction Rébellion, qui est un super mouvement, mais que je trouve pas présent assez dans les médias. Faudrait en faire une grosse matinale, en tout cas.
Bah, là, il y a Le Figaro qui a fait une il y a pas longtemps.
Ah, ça va.
En disant.
Alors j'aimerais bien voir comment ils en parlent.
C'était en gros les éco-terroristes, quoi, avec un gros drapeau Extinction Rébellion, qu'on a dit on n'a jamais eu une aussi belle pub. Pour le mouvement, donc c'était drôle.
Mais moi, je pense qu'il y a plein de gauchistes infiltrés au gouvernement et dans les médias de droite.
C'est sûr. Agir, ça se prépare. S'organiser, ça se construit. Être efficace, ça s'apprend. Le grand soir ne se fera pas sans nous. C'est quoi? C'est votre slogan?
C'est quand on s'est retrouvés, qu'on a essayé de réfléchir à comment on pouvait synthétiser un peu tout ça. Parce qu'au début, on avait 10 pages pour expliquer tout ce qu'on voulait faire. Et on revenait tout le temps dessus. On s'est dit, bon, c'est bien si on synthétise, ça a donné ça. Bon, c'est tout simple, en fait.
Ah oui, et puis c'est très clair, en tout cas, voilà, c'est bien synthétisé. Donc, répétons-le, il reste de la place pour samedi.
Le samedi, ouais.
Donc, concrètement, comment ça va s'organiser? C'est-à-dire qu'il y aura deux groupes et ils interchangeront matin, après-midi?
Non, c'est une journée de 7 heures de formation pour chaque atelier. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, ça commence à 9h30, donc on s'est dit qu'on se retrouvait à 9h tous au foyer rural pour un petit café, voir si tout allait bien, tout ça. Et ensuite, on se répartit sur deux salles du foyer et deux salles et au Florus à côté. Voilà. Selon les besoins des formateurs aussi, comment ils voient les trucs, comment les groupes sont constitués. Voilà, puis après à midi on pique-nique, à la bonne franquette, quoi.
Un bon moment convivial.
Oui. Ouais, ouais.
Alors si des auditeurs auditrices veulent s'inscrire, comment ils font?
Eh ben soit ils appellent au numéro qu'il y a sur le tract ou que tu vas mettre sur
internet dans un instant. Ouais.
Soit ils envoient un mail à l'atelier populaire. Alors il s'est trompé, Christophe, il a refait des tracts, il a oublié le L, Bruxelles, mais c'est pas Atelier Populaire, c'est l'atelierpopulaire@orange.fr. Et voilà, moi j'envoie le RIB de l'asso pour qu'ils puissent payer, ou alors ils mettent un chèque, ou alors on se dit qu'ils payent quand ils arrivent, ou alors je leur dis quand, voilà.
Et je mets tous les liens évidemment dans un instant sur notre site. Ça commence vendredi au Parc Carnal.
Ouais,
voilà, c'est vrai, primo, normal. À partir de 19h, ce sera suivi de votre spectacle Le Grand Soir n'aura pas lieu. Point d'interrogation de la compagnie Cortège de Tête. Merci beaucoup Théophile.
Merci à toi.
Merci beaucoup Louise.
Merci à toi.
Et merci Stéphanie.
Bah, avec plaisir.
De l'association L'Atelier. J'embrasse François évidemment. Hein,
j'attends ouais, toujours. Puis Laetitia, la pauvre, elle s'est coincée le dos.
Et Laetitia, c'est pour ça que François n'est pas là. Un week-end militant, je mets tous les liens sur notre site dans un instant. Merci beaucoup à tous les trois. Allez, dans un instant, on part à la rencontre de Marion Deltour et de son exploitation. On écoute d'abord, tiens, ce matin, j'ai envie. MC Solar, la concubine de l'hémoglobine.
J'ai vu la concubine de l'hémoglobine balancer des rafales de balles normales et faire des victimes dans les rangs des descendants d'Adam. C'est accablant, troublant, ce ne sont pas des balles à blanc. On envoie des pigeons défendre la colombe qui avance comme des pions, défendre des bombes. Le dormeur du Val ne dort pas, il est mort et son corps est rigide et froid. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine chez le Viet Minh au Vietnam sous forme de mine et de napalm. Parce que la science nous balance sa science. Science sans conscience égale science de l'inconscience. Elle se fout du progrès mais souhaite la progression de tous les processus qui mènent à l'élimination. Morne comme l'automne, un printemps en Chine. Ça c'est assez passé, assez gâché, cassé. La porcelaine de peine, qu'est la colombe de paix. L'art de la guerre tue de jeunes bambins. L'œuvre de Kim Song-man reste sur sa fin. La guerre nika, guerre nika. Et comme le pique-assiette Picasso la repique. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine en campagne électorale dans mes magazines. Jovial mais bancal, le politicien s'installe. Comme le dit Ayam, c'est un hold-up mental. Je les dose avec le prose combat. Pose avec le mic est devenu ma tenue de combat. J'aime la politique quand elle a assez de vocation pour lutter contre les processus qui mènent à l'élimination. Une lutte économique à l'HM16. L'opinion s'aperçoit vite qu'il y a des malheureux. Quand le sol vire au rouge, viennent les casques bleus. Le solar arsenal est équipé de balles vocales. Face au sol, sol, solaire, solar se fait radical. Constate le paradoxe du pompier pyromane. C'est comme si la mafia luttait contre la mafia. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine se faire belle comme les voûtes de la chapelle Sixtine. Pour l'alpha, bêtisation des néo-fachos. À froid ou à chaud, avant le bachot, ils souhaitent le cachot, voire revoir Dachau. Tel est le B.A.B.A. de l'ABC du jeune facho. C'est la horde aux ordres d'un nouvel ordre. Un peu partout dans les villes du globe, les crétins tissent leurs cordes. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. Elle aime la prolactine et les black smoking. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. Voici un extrait de ma pensée profonde, ma guerre des nerfs, parce que l'ignorance est le nerf de la guerre. On nous dit, Dieu est lumière, nous sommes tous frères, mais on constate que la lumière est éteinte. Je souhaite que nous ne fassions plus les mêmes erreurs. C'est dur à dire, mais j'ai peur.
M6 Solar, la concubine de l'hémoglobine. Et tout de suite, voici la troisième interview de producteurs de sens en partenariat avec la communauté de communes Gorge Coast Cévennes. Cette fois-ci, nous partons à la rencontre des producteurs et productrices vendant leurs produits cet été. À la rencontre de Marion Deltour. Son exploitation se nomme Les Fruits Rouges de la Coste. Ça se situe à Saint-Germain-du-Teil. Et c'est Léo qui l'a rencontré. C'est parti.
Donc bonjour, donc moi c'est Marion Deltour, je suis productrice de fruits rouges depuis 2020. Donc là on va attaquer notre troisième saison de récolte, de commercialisation de nos produits. Donc on s'est installé sur une exploitation, enfin sur des terres familiales. On a commencé à planter il y a déjà quelques années de ça, puisque le projet a mis quelques années à se mettre en place. Donc on a tous les fruits rouges en production, framboises, groseilles, cassis, mûres, myrtilles et fraises. Donc deux parcelles de fraises, dont cette année une qu'on ouvre en cueillette libre, en nouveauté. Voilà, qu'on avait, c'est un nouveau projet de l'année. On vend donc nos produits, nos fruits frais, mais aussi voilà, transformés. Donc on a développé une petite gamme de produits, notamment des confitures et des vinaigres à partir de nos fruits. On a aussi une châtaignerie, donc on fait des produits à base de châtaigne, des délices de châtaigne, et puis du jus de pomme. C'est ce qu'on transforme et qu'on peut commercialiser donc toute l'année. On commercialise beaucoup sur les marchés jusqu'à présent, voilà. Donc on fait beaucoup de ventes en direct sur les marchés et on développe aussi la vente en direct sur l'exploitation, donc avec une petite boutique, voilà, pour accueillir et permettre de faire visiter l'exploitation.
Je vais te demander du coup, quel est ton parcours ? Comment tu en es arrivé là à faire des fruits rouges ?
Alors, mon parcours, à la base, je suis infirmière. Donc, rien à voir avec l'agriculture. J'ai exercé plusieurs années en tant qu'infirmière. Mon mari avait une entreprise dans le bâtiment. Et puis, en fait, on a pu racheter cette propriété familiale avec une dizaine d'hectares. Et on a commencé en fait à planter des fruits rouges, mais pour nous, en fait, pour notre consommation personnelle, pour nos enfants. Et puis on a vu que voilà, que ça fonctionnait très très bien. On a une terre ici qui est très adaptée aux fruits rouges. Donc on a commencé à en planter un petit peu plus. Et puis après, ben, l'objectif pour nous, c'était de passer un petit peu plus de temps sur la ferme, l'entretenir, parce que voilà, 10 hectares, mine de rien, c'est du travail. Et donc avec nos deux boulots très très prenants, c'était compliqué. Donc voilà, le projet de l'exploitation est né. Il a mis bien 6 ans à se mettre en place. J'ai fait des remplacements encore jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Mais voilà, on a planté, on a mis en place les cultures, notamment ben, voilà, tout ce qui est arbustes, groseilliers, cassissiers, framboisiers, qui mettent un peu plus de temps que les fraises. Et on commercialise donc depuis 2 ans. On attaque tout juste la troisième saison.
Vous commercialisez depuis 2 ans. Où est-ce qu'on peut retrouver vos produits si on désire les acheter ?
Alors, donc nous, on fait en marché. Alors cette année, ça change. Enfin, la saison démarre et on change un petit peu les marchés qu'on faisait jusque-là. Donc les deux années qui viennent de s'écouler, on peut nous retrouver là sur le marché très bientôt de la Canourgue. Ensuite, en vente directe ici à la ferme, on va faire le marché donc nocturne de Saint-Enémy. On fait tous les événements qui sont organisés durant toute la saison estivale, en Lozère. Voilà, on essaye de répondre présent à tous les événements. Et ensuite, on a quelques commerces, une quinzaine de commerces, voilà, qui sont revendeurs de nos produits. Donc là, on a Saveur du Teil à Saint-Germain-du-Teil, on a Hyper-U Amande, le Jardin Provençal, quelques boutiques à Chirac, Marvejols. Voilà, on essaye d'en avoir, pas toutes les nommer, mais on commence à en avoir une petite quinzaine à peu près.
Quelle surface fait votre exploitation et du coup pour à peu près quelle quantité de fruits ramassés chaque année?
Alors l'exploitation, enfin voilà, l'exploitation notre qui est aussi notre lieu d'habitation, on est sur une petite quinzaine d'hectares à peu près. Mais la production de fruits rouges en elle-même fait un peu moins d'un hectare. Ensuite, on a un peu plus d'un hectare de vergers et 2-3 hectares de châtaigneraies qu'on rénove petit à petit parce qu'en fait, voilà, les châtaigniers ont été envahis par la végétation et au fil des années. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe, c'est de nettoyer les parcelles voilà, en permanence pour du coup pouvoir retailler les châtaigniers, leur redonner de la lumière et qu'ils continuent à produire. Et qu'on puisse, nous, du coup, transformer quasiment tout ce qui nous est donné sur nos terres. Voilà. Et ensuite, les parcelles de fruits rouges, on les a créées à l'intérieur des châtaigneraies. Parce que c'est une terre voilà, qui est très riche pour les fruits rouges, très acide. Et en fait, on ne travaille qu'avec des analyses de sol. Donc voilà, chaque fois qu'on change de parcelle, qu'on fait une rotation, notamment pour les fraises, on fait une analyse de sol. Et donc voilà, à l'intérieur de la châtaignerie, ça nous apporte ce qu'il nous faut, naturellement, voilà, sans être obligé d'amender.
Vous êtes seulement deux à travailler à l'année sur l'exploitation, vous faites peut-être appel des saisonniers en période forte?
Alors, pour le moment, on n'est que tous les deux. Avec mon mari, on ne peut pas encore pour le moment embaucher, ça fait seulement 2 ans qu'on s'est installé. J'espère que dans quelques temps, on pourra embaucher un saisonnier. Mais là, voilà, à l'heure actuelle, on n'est que tous les deux.
Et vous utilisez quoi, du coup, comme technologie, mais ça peut être des véhicules pour récolter, pour labourer, pour faire vos changes?
Alors, en termes de matériel, c'est vrai que la culture de fruits rouges, la production de fruits rouges n'est que très peu mécanisable. Donc voilà, c'est ça un petit peu le souci. Donc on a juste un tracteur qui nous fait la préparation de la terre avec un rotalabour, enfin voilà, quelques petits engins agricoles, on va dire, qui nous aident à travailler le sol. Après, mon mari a inventé une machine pour nous aider à former les buttes, une autre pour une qui forme les buttes et qui plastifie en même temps, parce que bon voilà, les investissements sont très très vite compliqué, et donc c'est la seule chose voilà qu'on mécanise un petit peu. Après, tout le reste on le fait à la main, donc c'est la plantation, la taille et la récolte, tout se fait manuellement.
Comment est votre implantation dans le territoire? Vous avez des collaborations avec d'autres agriculteurs locaux, des gens locaux qui ont pu vous aider ou...
Oui, alors c'est vrai qu'on a quelques collègues agriculteurs sur qui on peut compter, sur notamment voilà, de l'achat de matériel en commun ou voilà, des choses comme ça. Après, y a tout le côté aussi collègues de marché, parce que c'est une ambiance aussi sympa, et donc voilà, on s'entraide beaucoup aussi sur les marchés. Après, on reste producteur, on est beaucoup sur l'exploitation, donc malheureusement, on voit pas grand monde non plus. C'est pour ça que pour nous, c'est important en fait de pouvoir aller continuer à faire des marchés, même si on veut développer l'accueil à la ferme. C'est pour avoir aussi ce côté relationnel avec les clients et voir un petit peu de monde, quoi. Voilà.
À une époque où on parle beaucoup de problèmes climatiques, de réchauffement global, comment vivent vos fruits rouges par rapport à ces changements climatiques?
Alors, les fruits rouges, ils le vivent bien. Moi, moins bien. Non, c'est un gros stress. Je peux pas le nier, ça c'est sûr. Les nuits sont courtes. Le stress est pesant voilà, pendant la production. Oui, ça, voilà, c'est une vérité. La première année, on a eu la grêle et le gel. La deuxième, l'année dernière, la sécheresse, la canicule. Donc ça a été très très dur physiquement déjà pour nous de travailler avec des chaleurs parce qu'on était obligé de travailler même avec 40 degrés. Il fallait récolter très vite, écouler ou transformer parce que le fruit se tenait pas du tout. Et en termes d'irrigation, ça a été des heures et des heures et des heures et des heures de travail supplémentaire pour sauver on va dire, la plantation qu'on venait de faire au mois de mai, sauver la production. Enfin, voilà, on a fait des choix au niveau technique de la production qu'on a été obligé de faire. Cette année, on a un petit peu plus travaillé sur l'irrigation en termes d'investissement pour se soulager un petit peu du travail au cas où, parce que bon, ils annoncent un été quand même encore chaud. Il manque de l'eau, malgré les pluies de ces derniers jours, il manque encore de l'eau. Mais voilà, la grêle est un. Voilà, pour moi, ça, c'est mon stress majeur. Donc, oui, voilà, pendant 4 à 5 semaines de production de fraises, c'est. Voilà, le moindre nuage nous fait peur, le moindre. Mais c'est un choix qu'on assume parce que, voilà, comme on l'explique à nos clients, c'est qu'on ne veut pas traiter et donc on ne veut pas être sous serre et donc être plein champ. Voilà, que nos fruits puissent mûrir plein champ à leur rythme. Alors là, on a eu une. Voilà, il y a une poussée d'un coup il y a 15 jours. On s'est dit, bon, ben, les fraises cette année auront un peu d'avance par rapport à l'année d'avant. Et puis là, finalement, voilà, il ne fait pas beau, donc ça ralentit un peu. Mais ce n'est pas grave, on récolte et on s'adapte au rythme de la nature, des saisons. Après, quand elle est un peu capricieuse, c'est un peu plus compliqué, mais on n'a pas le choix que de s'adapter aussi. Et c'est pour ça que la transformation est née aussi. Parce que notre projet de ne faire que du fruit frais, c'était pas possible, quoi. Pas en production plein champ. Voilà. Moi, si une fraise est picorée par une abeille ou une guêpe, ben, elle est bonne et elle a mûri au soleil et elle peut être mangée comme ça ou transformée, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on essaye de s'adapter, de stresser le moins possible.
Au niveau de votre choix de devenir productrice, vous étiez infirmière avant, mais du coup c'était quelque chose que vous aviez en tête de devenir productrice, c'est un peu l'opportunité qui s'est présentée de le devenir, ou c'était vraiment une volonté, enfin, est-ce que vous comprenez ma question, est-ce que c'était une volonté d'avoir plus de sens peut-être dans votre métier?
Alors, le monde de l'agriculture, je le connaissais pas vraiment, même si on a des membres de la famille qui sont agriculteurs mais je le connaissais pas personnellement. Quand on est arrivé ici, qu'on a récupéré la maison donc familiale, du coup j'ai pu un petit peu connaître ce que c'était que le travail à la terre. On a commencé par faire notre potager, par avoir nos animaux, voilà. Et le métier d'infirmière, pour moi j'en avais fait le tour. Voilà, malgré que je sois jeune, j'en avais fait le tour et donc voilà, il y avait quelque chose qui me disait qu'il fallait que j'aille plutôt vers la terre, vers le travail de la terre. Et comme c'était un projet qu'on pouvait monter ensemble avec mon mari, ça a eu tout son intérêt par rapport au mode de vie qu'on choisissait aussi d'être ici avec nos enfants, un choix d'une alimentation saine, le choix de manger ce qu'on produit. Voilà, il y a toute une philosophie, en fait, un chemin de vie qui s'est dessiné au fil du temps et qui a fait que petit à petit, voilà, moi j'ai quitté le monde du médical, lui le monde du bâtiment. Et voilà, on a ce projet nous plaisait parce que on était quand même attiré par ce côté fruits rouges et nourriture, en fait, qu'on peut, voilà, ce qu'on peut produire et récolter et consommer. Voilà.
Par rapport, je suis allé hier soir visiter un peu le site internet et il est super bien fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Alors, le site internet, il est tout récent, du coup. Alors, c'était pas, je pensais pas le faire aussi rapidement. Mais en fait, quand on fait nos marchés, justement, durant la saison estivale, voilà, notamment le marché de Saint-Élimi, où du coup le tourisme est là, les gens sont en vacances, goûtent les produits locaux, et puis une fois qu'ils sont chez eux, en fait ils m'appelaient parce qu'ils voulaient de nouveau pouvoir avoir nos produits. Donc là c'était un petit peu compliqué pour moi parce que c'était une logistique, voilà, ou par téléphone ou par mail, enfin bon, voilà. Là on s'est dit, il faudra peut-être faire un site, un petit site marchand, voilà, pour permettre aux gens, ou de faire leur commande et de venir récupérer ici directement à la ferme, ou qu'on puisse l'expédier. Et donc, il est né fin décembre, donc voilà, il n'y a pas très longtemps. Et on essaye, du coup, de mettre un petit peu les actualités, les nouveautés qu'on propose sur place, parce que en nouveauté cette année, donc je vous l'ai dit, il y a la cueillette libre pour les fraises. On a fait une aire de stationnement pour les camping-cars aussi, et on va proposer cet été le goûter à la ferme avec visite de l'exploitation.
Pour la vente ici, vous avez beaucoup de visites à l'année, ou c'est surtout des, ça va être surtout des locaux ou plus des touristes?
Alors sur la ferme ici directement, ça s'est beaucoup développé depuis Noël, puisque bon voilà, les deux saisons précédentes, on était nous-mêmes déjà beaucoup sur les marchés. Et en fait, on a autant de locaux que de touristes qui sont en vacances et qui ont été conseillés par des offices de tourisme, d'autres producteurs, enfin voilà, c'est vraiment assez homogène, quoi. Voilà, il y a vraiment les deux clientèles. Voilà, on a fait ce parking qui n'existait pas il y a encore 15 jours.
Très pratique.
Voilà, c'était le champ et des arbres, il n'y avait que des sapins. Donc là, on a dit hop, on fait un parking, comme ça, ça permet pour la cueillette libre. Du coup, on a fait donc l'aire de stationnement là au-dessus. Bon, là, on est en train de finir de la création du talus et tout ça. Voilà. Et après, la fraiserie, donc c'est par ici. Du coup,
la cueillette libre, c'est quoi exactement?
Alors, la cueillette libre, c'est que les personnes en fait vont pouvoir venir directement sur l'exploitation ramasser les fraises. Donc le but étant de passer un bon moment en famille ou entre amis, être dans le champ, pouvoir goûter et choisir les fraises qu'on a envie de ramasser. Et donc le fonctionnement, c'est qu'on arrive sur l'exploitation, on pèse son panier vide, enfin son contenant, on va dans le champ et puis après hop, on repasse à l'accueil pour payer ce qui est dû en fait en quantité ramassée. Voilà.
À l'avenir, vous avez des projets d'expansion ou rester sur des tailles de parcelles identiques, sur des quantités identiques?
Pour le moment, non, on n'a pas le projet d'agrandir plus parce que pour l'instant on est que deux, et que là déjà on a doublé la production en fraises cette année, on a doublé la production en framboisier qui sera donc prête pour l'année prochaine. Et non, on veut rester sur une petite production locale et voilà, sur la gamme de produits qu'on a et pas plus. Ça, c'est la fraiserie, voilà, tout à fait. Une des fraiseries, donc c'est celle c'est la dernière plantée, celle-ci. Donc là, tout est en fleurs, on a même des petites fraises vertes. Donc on est plein champ. Nous, ça nous demande, voilà, c'est sur un entretien au niveau herbe, voilà, la débroussailleuse, le temps de débroussaillage entre buttes. Mais bon, voilà, c'est vraiment un choix, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un choix d'être plein champ. Et puis du coup, les fleurs, elles sont butinées par toute la faune qu'il y a autour. Donc les apiculteurs qui sont aux alentours sont contents. Ils ont, il y a du fruit. Et puis, si on est embêté par des pucerons, par exemple, on traite au savon noir de manière naturelle. Après, on taille, on les laisse à la fin de la production, on les laisse tout l'hiver tel quel, et en fait on les taille qu'au printemps. Donc là, tout le mois de mars et presque la moitié du mois d'avril, on les taille tous un par un, voilà, à la main.
Vous fonctionnez comment pour l'irrigation ?
Au niveau de l'irrigation, en fait, on a le captage qui est au-dessus des fraiseries. Donc tout fonctionne par gravité. Et on a un goutte-à-goutte intérieur, à l'intérieur des buttes.
C'est quelle sorte de fraise ?
Alors on est parti au départ dans le projet sur 4 variétés différentes de fraises, des non-remontantes et des remontantes. Les remontantes en Lozère. On oublie, c'était pas notre objectif de faire de la fraise jusqu'au mois de novembre, qui mûrit pas correctement. Donc on est resté que sur des non remontantes et on a gardé qu'une seule variété qui est la Dar Select. Voilà, une variété qui nous plaît beaucoup, qui quand je la mesure en pleine récolte en termes de taux de sucre, on est à du 12-13%. Donc voilà, c'est une fraise qui est sucrée naturellement.
Du coup, vous plantez avant les seins de glace, vous n'avez pas peur, ça les...
Là, celles-ci, elles sont plantées depuis mai dernier.
D'accord.
En fait. Donc, c'est nos parcelles de fraises, on les garde 3 ans. On fait une rotation sur 3 ans. Quand on a celle-ci, donc celle-là qu'on va voir là, qui va être donc ouverte à la cueillette libre cette année, c'est sa dernière année. À la fin de la saison, on arrache tout. Et ensuite, on plante en fait de l'engrais vert. Voilà. Et on laisse reposer pendant 4 à 5 ans.
Vous avez des problèmes avec des animaux ?
Et oui, c'est pour ça que tout est grillagé en fait. Là, chaque parcelle est grillagée à 2 mètres. C'est de la grille de 2 mètres, comme sur les autoroutes. Parce que ben, on a les cervidés, les cerfs, les biches, les chevreuils, les sangliers qui aiment bien. Donc voilà, on a été obligé de tout clôturer. On a aussi sur l'exploitation 5 ânesses. Alors qu'ils sont dans la châtaigneraie, là on les voit pas, ils doivent être en train de manger un peu plus bas. Qu'on fait, voilà, qui nous aide à entretenir en fait tout le reste de l'exploitation qui n'est pas cultivée. Donc il faut aussi voilà protéger les parcelles des ânesses mais qui voilà sont à nous, mais et puis de la faune sauvage qui ouais. Même les renards, les blaireaux. Une fois, voilà, il y a un blaireau qui était venu et qui nous a détruit une butte. Bon, mais on est obligé de clôturer, c'est obligatoire.
Et du coup, sur cette parcelle, l'an prochain, vous mettrez autre chose à la place ou vous laisserez juste la terre se reposer ?
Uniquement de l'engrais vert, en fait. On met donc légumineuses, moutardes, voilà, qui va permettre à la terre de se renourrir correctement, mais qu'à base d'engrais vert.
C'est les mêmes périodes, que ce soit les mûres, les framboises ou les fraises, ou c'est quand même un peu décalé ?
C'est décalé. Du coup, on attaque là, bon, mais voilà, comme je vous disais, à peu près fin mai avec les fraises. On a une production qui dure 4 à 5 semaines. Et quand on a fini les fraises, on enchaîne avec les premières framboises, parce qu'au niveau des framboisiers, là, on a du remontant et du non-remontant. Puis s'enchaînent les groseilles, les cassis. De suite après, on repart ensuite après avec les framboises de nouveau. On a après myrtilles et mûres. Et quand on a terminé tout ça, c'est la fin de l'été, on attaque avec la récolte des pommes. Et quand on a fini les pommes, eh bien, on attaque avec les châtaignes. Et voilà. Et on est au mois de décembre.
Il y en a vraiment pour toute l'année.
Oui, complètement. Il y en a pour toute l'année, puisque après, ben, il y a toute la transformation, il y a toute la commercialisation. On fait les marchés de Noël aussi sur tout l'ensemble quasiment du territoire lozérien. Donc oui, on a. Et puis après, au mois de mars, donc janvier-février, on transforme. Et mars, on repart à l'extérieur. Donc il n'y a pas du tout de moment de répit.
Vous avez peut-être pensé à un autre moyen aussi, à d'autres moyens de transformer les fruits, ou vous vous conditionnez à faire que du vinaigre, de la confiture et
Oui, du jus de pomme, oui. Pour le moment, voilà, on a une petite gamme, en vinaigre, donc on a quand même 7 parfums de vinaigre. Ensuite, on a 3 parfums de confiture et du jus de pomme. Je pense que on étendra un petit peu la gamme, mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Il faut laisser la production s'agrandir un petit peu, et puis ensuite on verra peut-être pour les jus de fruits et les sirops, pourquoi pas, bonbons aussi, quelques petites nouveautés à venir, mais pas immédiatement quoi. Donc là c'est une parcelle qui est toute nouvelle, et voilà, on le voit du coup, voilà, ça vient d'être planté au printemps, donc bon voilà, il faut encore entretenir les interbutes, mais qu'on a fait beaucoup plus large, et voilà. Mais on a remis en fait toute une parcelle là de framboisiers et de groseilliers. Là, voilà, ce sont des plants qu'on l'on fait nous-mêmes maintenant. Par contre, on est autonome au niveau plant. C'est des plants que je mets en pépinière à l'automne, et puis qu'on replante au printemps. Donc en projet, il y aura aussi la vente de plants de framboisiers notamment. Là, eh bien, il nous reste plus qu'à finir encore du palissage. On n'a pas eu le temps encore, donc on va le faire là, dans la semaine qui arrive, pour palisser nos framboisiers. On a commencé, mais voilà, il y a quelques mètres linéaires encore manquants, donc c'est le travail de la semaine prochaine.
Et du coup, par rapport aux fraises, les framboisiers, vous lui, ça dure plus longtemps, j'imagine ?
Ah oui, oui. Alors, en termes de production, les framboisiers, on les met pour 8 ans. On les met en place pour 8 ans. Ça, c'est un choix qu'on a fait sur les pieds mères. Et puis ensuite, par contre, voilà, on fait, comme je vous dis, nos propres plants. Donc finalement, en fait, on va renouveler en permanence. Et voilà, là, je pense qu'on a encore bien 5-6 ans devant nous. Hein, ceux-là, ils ont que quelques années. Ils sont en train de... Voilà, on est au printemps, donc là, on taille beaucoup à l'automne. Donc là, ils sont en train de repousser. Et puis les autres plus bas sont plus petits. Donc cette année, ils vont de suite prendre plus d'ampleur. Et puis voilà, les autres petits vont prendre le relais. Et puis on va, voilà, en fait, on essaye d'être autonome et de recréer nos parcelles avec nos plants qui finalement aussi sont adaptés à notre terrain maintenant. Enfin voilà, ça c'est important pour nous parce que avec, comme vous disiez, voilà, tous ces changements climatiques, ces périodes de sécheresse, ces périodes où on manque d'eau, enfin voilà, et on est assez vigilant là-dessus aussi. Et donc nos plants s'habituent aussi à ce que voilà, ils soient ici, sur cette parcelle, ici exposés comme ça. Il y a la rivière qui passe dessous, donc il y a une certaine humidité. Alors nous, on s'accommode, c'est-à-dire qu'on ne récolte jamais le matin très tôt sur cette parcelle-là, puisque elle est chargée en humidité. Mais au moins en termes d'irrigation, on apporte ce qu'il faut et uniquement ce qu'il faut. Voilà. On n'est pas dans l'abondance et surtout pas, enfin, on ne veut pas en manquer quoi. À un moment donné, on n'est pas raccordé nous au réseau de la commune, donc il faut, voilà, c'est une richesse l'eau et surtout quand on est producteur de fruits, donc on y fait très très attention et c'est pour ça que voilà, on se dit que nos plants et l'endroit où ils sont exposés, ben voilà, ils sont habitués et il faut voilà maintenir cette façon de produire quoi.
J'ai vu dans votre boutique que vous aviez du coup des prix, vous avez gagné des prix ces dernières années. Quels sont ces prix?
Oui, du coup on a participé l'année dernière au concours Lozère Gourmande et donc on a eu deux trophées, donc un pour le vinaigre à la myrtille et un pour le délice de fraise qui est en fait une confiture de fraise allégée en sucre. Donc nous, voilà, on les appelle délices. Voilà, c'est notre choix, voilà, de ne pas avoir l'appellation confiture. Et donc on a eu ces deux trophées-là, oui, pour le concours Lozère Gourmande et pour 2 ans.
Je vous remercie grandement pour cette interview et hâte de vous revoir sur les marchés.
Merci à vous et à très bientôt sur les marchés.
Et ben merci beaucoup Léo. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Restez bien sûr Bartas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec MC Solar, la belle et le bad boy. Passez une excellente journée sur nos ondes. À mercredi, ciao.
Ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'école, entre une heure de colle, de maths ou un cours d'espagnol. C'était une fille fun, fanat de football, lui ne craignait pas les balles, c'était le goal. Ce qu'il lui promettait, c'était des balades en corvette, pour l'instant en survette. Il volait des mobilettes, mais entre eux c'était toujours complicité. Escale sur un piédestal, un rêve délimité. S'il devenait triangle, elle serait rectangle. La belle et le bad boy, le triangle rectangle, c'est comme passer de Jodassin à Jodeci, un vrai truc de ouf, style pur clip de R&B. Elle vit le grand amour qui commence dans la course, poursuit dans les tours et rime toujours avec toujours. Mais le contexte est plus fort que le concept. Son mec se jette dans des flammes et il se lave avec les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. Les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. Pour gagner des sous ensemble, parle sans faire semblant de faire des coups ensemble. Et si c'est sanglant, il plaide devant Dieu ensemble. Vu, il était convaincant, elle était convaincue à croire qu'aujourd'hui s'arrêter était exclu. Il trafique
Des faux billets avec des réseaux, cela balance la concurrence. En France, c'est un délit grave, risqué pour les paumettes. Les mecs sortent des baumettes, lui n'a qu'un truc en tête, c'est la quête de sa corvette. Ambiance paranoïaque, l'équipe adverse traîne. Des projectiles partent quand une BM freine. Quand elle tombe, il a les larmes aux yeux. Deux balles de 22, 22 ans à 10 eux. Le contexte est plus fort que le concept. Son mec s'est jeté dans des flammes, faut qu'il se lave avec. Les sous-ensembles, dans les grands ensembles, s'assemblent. La belle et le bad boy. Les sous-ensembles, dans les grands ensembles, s'assemblent. La belle et le bad boy. Les sous-ensembles, dans les grands ensembles, s'assemblent. La belle et le bad boy.